Vous en avez sans doute entendu parler de cette loi entrée en vigueur au Texas il y a 10 jours qui offre une récompense à tous ceux qui dénoncent une personne qui aide des femmes à avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Tout le monde est visé, hein, le médecin qui pratique l'avortement, comme le kidam qui est au courant, ou le proche qui l'a rendu possible l'avortement en donnant par exemple de l'argent. Cette loi, qui n'a pas été retoquée par la Cour suprême, elle dit très clairement que le corps des femmes ne leur appartient pas, dans la mesure où elles n'ont pas le choix. Mais elle va beaucoup plus loin que ça. Elle dit aussi clairement, c'est assez impressionnant, que leur corps appartient à tout le monde sauf à elle, à tous les citoyens qui sont soudain impliqués dans son choix, redevables de son choix, appelés à dénoncer toutes celles et ceux qui auraient participé, orienté, validé son choix. Si le corps, comme tout le monde semble nous le rappeler aujourd'hui, est notre ultime espace de liberté, alors cette loi, elle est inouïe. Elle dit encore une fois que le corps des femmes ne leur appartient pas et elle désigne noir sur blanc tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec ça comme complices ou criminels. De quoi parle-t-on sinon de corps reniés, de corps désormais exposés aux délateurs et aux chasseurs de primes, de corps traqués tout le temps, recherchés, wanted, de corps hors la loi? Et qu'est-ce qui vous reste quand on vous prend ça, quand vos propres corps ne vous appartiennent pas?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous parle justement de corps, de féminin, de résistance, depuis les rochers de poudre d'or, en passant par le dernier frère tropique de la violence ou encore le ciel par-dessus le toit. Elle travaille de son écriture sensible et ciselée les motifs de la violence, de l'enfermement et de la mémoire. Rien ne t'appartient, son nouveau roman vient de paraître. C'est l'histoire d'une femme qui, à la suite d'un deuil, se retrouve engloutie par son passé, sans trop rien révéler. Bonjour Natacha Avana.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, parce que je sais que c'est un sujet qui vous touche, qu'est-ce qu'il nous reste quand le corps ne nous appartient plus?
Écoutez, j'étais ravie que vous parliez dans votre introduction de cette loi, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement hypocrite, cette loi, parce que ils essayaient de contourner la criminalisation de l'avortement, mais d'encourager la délation. Et je suis toujours à la fois inquiète terrifiée par la cristallisation de nos peurs autour du corps féminin. Toujours ça tourne autour, que ce soit ce qu'on en fait, comment on le représente, et notre liberté dans ce corps-là.
Et le fait que ce soit aussi un enjeu encore politique, même dans nos démocraties occidentales en 2021.
Oui, c'est terrifiant. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que finalement, cette loi-là, cette dérive-là, amènera plus tard une discrimination sociale. Puisque quand vous avez de l'argent, quand une femme a de l'argent, quand elle a les moyens d'accéder aux soins, elle trouvera toujours le moyen de se faire avorter ou d'aller dans un cabinet. Mais quand elle n'en a pas, qu'elle soit migrante, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit noire, qu'elle soit dans un ghetto, elle sera la première victime. Donc il y a souvent corps et corps. Quand vous avez un corps de riche, quand vous avez un corps aisé, quand vous avez un corps protégé, et ensuite quand vous avez un corps de couleur, quand vous avez un corps de pauvre, là c'est autre chose.
Passionnant. Natacha Apana, qu'est-ce que ça veut dire une fille gâchée? Cette expression qui revient sans arrêt dans votre texte.
Je ne saurais vous dire la définition exacte de la fille gâchée, parce que j'ai l'impression que nous avons tous notre propre notion de fille gâchée, que nous vivions ici, à 20 kilomètres, dans un autre pays. Notre grand-père, notre mère, notre frère, notre cousin a sa propre notion de fille gâchée. J'ai l'impression que selon nos traditions, notre culture, ce que on nous a inculqué, et aussi selon notre éducation. Par exemple, la fille gâchée dans mon texte, c'est une fille gâchée par la liberté qu'elle prend, par l'extrême sensualité qu'elle a à aimer. C'est ça, la notion de... Enfin, c'est elle, comment dire, c'est par cela, par cette liberté, cette sensualité-là qu'elle devient une fille gâchée. Ici, ce serait pas comme ça, ce serait peut-être autre chose, peut-être, parce que ce serait la longueur de votre jupe, la longueur de votre haut, ce serait peut-être avec le nombre de personnes que vous couchez. Donc, cette description qui fait que toujours nous avons une ligne à ne pas franchir, toujours. Et cette ligne-là n'est jamais définie par nous.
Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, que naître fille, c'était s'exposer à un traitement différent de celui réservé aux garçons?
Peut-être quand mon frère est né. je crois que à partir du moment où il y a eu un personnage masculin, autre que mon père, dans ma famille, et que j'ai pu voir la différence de traitement entre lui et moi. Lui, il était beaucoup plus jeune. Mais nos parents nous aimaient pareil, comme on dit. On aime toujours pareil. Mais on attend différemment. Et je ne sais pas si lui, il a la notion du garçon gâché.
Jamais personne ne m'a expliqué ce que c'est que d'être une fille dans ce pays. C'est ce que vous faites dire à votre narratrice, page 73, Natacha Apana. De quel pays est-ce que vous nous parlez au juste? Parce que, en disant ça, on se dit que ça pourrait être n'importe où, en fait.
Oui, mais je suis heureuse que vous disiez ça, parce que dans ce livre-là, c'est tout à fait expressément que je n'ai pas parlé d'un pays. Parce qu'il me semble que, ça fait longtemps que je travaille sur ce texte, il me semble qu'au départ, mon personnage était un peu flou. Et qu'au fil de mes récits, au fil de mes romans, au fil de mes voyages, au fil de tout ce qu'on entend quand même, de par le monde, ce personnage-là s'est affiné. Et s'est affiné avec tout ce qui nous atteint dans le monde. S'est affiné avec ce qui nous atteint à l'ouest, à l'est, avec ce qui nous atteint dans son corps. Elle est une sorte de concentré, si vous voulez.
C'est vrai, mais le fait de ne pas nommer ce pays, si bien qu'il demeure pour le lecteur un lieu imaginaire, un mystère, un lieu de papier, un lieu de fiction, ça dit quelque chose sur la fiction aussi, que permet la fiction.
Oui, mais je pense que ça c'est tout à fait personnel, parce que j'ai eu toute une... De mes premières années, quand j'ai commencé à lire de la fiction... C'était toujours de la fiction qui n'avait absolument rien à voir avec ce que j'étais, le pays dans lequel je vivais, la nature que je pouvais voir. Mais jamais je ne me suis posé la question, mais pourquoi est-ce si différent? Pourquoi est-ce si étranger? Parce qu'il y avait une connexion entre cette fiction et moi.
Ça veut dire que la fiction permet l'expression de la vérité?
Oui, incarne à une sorte de pouvoir évocateur de notre réel et de la vérité, qui est parfois 100 fois plus puissant qu'un documentaire, qu'un reportage.
Comment on fait, Natacha Apana, pour faire ressentir la vérité au lecteur? Par quoi ça passe pour vous, techniquement, concrètement?
C'est une question vaste, parce que je crois que c'est la... Si vous m'aviez posé cette question il y a 15 ans, je vous aurais dit c'est la voix du personnage. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a deux autres choses. C'est l'endroit duquel le personnage se tient, c'est-à-dire est-ce qu'il se tient de l'enfance, est-ce qu'il se tient d'un chagrin d'amour, est-ce qu'il se tient parce qu'il est malheureux, il se tient d'un endroit où il en veut à quelqu'un, où il se tient d'un endroit paisible. Tout dépend de cet endroit-là, et tout dépend également du cadre dans lequel il s'exprime, donc de l'endroit dans lequel il s'exprime. Et pour moi, la forme d'un texte, elle est très importante. Mon personnage parle à un moment dans la nuit et à un moment dans une sorte de vaste enfance dans laquelle elle a vécu.
Et je rajouterais chez vous la retranscription de sensations, cette écriture des sens, une écriture sensible, pour ne pas dire sensorielle ou sensuelle. Non?
Oui, mais ça c'est le personnage qui fait ça. À partir du moment où j'ai compris qui elle était et de l'endroit duquel elle parlait, sa liberté a lâché mon écriture, si vous voulez. Sa liberté a fait en sorte que son corps et d'une certaine façon mon corps aussi, quand j'écris, était très libre.
C'est la question que j'allais vous poser. En quoi diriez-vous que c'est peut-être d'abord avec le corps qu'on écrit? Ne serait-ce que physiquement, d'ailleurs.
Oui, moi, il m'arrive, par exemple, si vous voulez, de faire les mêmes pas que mon personnage.
Allons donc.
Pour voir si ce qu'elle fait est crédible. Au tout début de mon texte, mon personnage voit un garçon sur un fauteuil.
Vous êtes allé espionner les garçons?
Non, je ne suis pas allé espionner les garçons. J'ai imaginé, j'ai mesuré la distance pour voir si... Il y avait vraiment quelqu'un là? Est-ce qu'il y aurait des ombres sur son visage? Il y a quelque chose d'extrêmement physique dans lequel j'écris, ce que je ne veux pas qu'on me dise, que ce n'est pas possible. Je sais qu'on ne va pas me dire que le cœur de ce personnage n'est pas possible. Et ça, parce que je le sens, ça. Et quand on écrit la vie comme elle est, On a des centaines, l'écho est vaste.
Alors vous le disiez, cette jeune femme qui a transgressé les règles de la morale, elle va connaître l'enfermement. L'enfermement qui est un motif omniprésent dans votre œuvre. Je pense évidemment au ciel par-dessus le toit, au dernier frère et même dans une certaine mesure à Blue Bay Palace. De quoi elle est née cette obsession de l'enfermement? Vous avez fini par le savoir, Natacha Apana?
Vous savez, au début, je ne savais pas que je parlais de ça. C'est vrai. Et je crois, heureusement, qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle, parce qu'on continue à creuser à ce moment-là. On continue à ne pas avoir peur d'y aller. Je crois que moi, mon enfermement, il est surtout... je suis née sur une île, donc on peut l'imaginer comme une, comme un pays qui est entouré d'un horizon, mais mon enfermement, l'enfermement sur lequel je puise beaucoup mon inspiration, c'est surtout l'enfermement dans un corps, l'enfermement dans un carcan, l'enfermement dans une opinion.
Et dans quelle mesure la littérature libère, justement ?
Mais parce qu'elle incarne d'autres vies que la sienne, elle fait voir d'autres choses que la sienne, et surtout elle fait creuser là où on n'ose pas aller. Et ça, je trouve ça formidable.
Celle qui emprisonne plus qu'elle ne libère dans cette émission, vous la connaissez Natacha, c'est évidemment la culture et son actualité parfois trop carcérale. Que se passe-t-il donc aujourd'hui vendredi 10 septembre ? Ça restera l'image la plus émouvante de la semaine, peut-être le cercueil de Jean-Paul Belmondo qui quitte les Invalides sur la musique signée Ennio Morricone du professionnel. Salut Bevel.
C'est un film qui accompagne mon personnage vraiment dans un parcours initiatique. C'est un portrait d'une jeune fille de 11 ans dans la société d'aujourd'hui.
Doucouré décoré, la jeune réalisatrice Maïmouna Doucouré, déjà primée à Sundance et à Berlin pour son film Mignonne, vient de recevoir en France le très beau prix Alice Guy de la meilleure réalisatrice. Baptisé en hommage de cette pionnière française du cinéma, figure oubliée du 7e art, le prix créé en 2018 a pour ambition notamment de pallier l'absence récurrente de réalisatrices dans les grands palmarès annuels et de valoriser le travail des femmes cinéastes. Metallica de force majeure, il y a 30 ans exactement, le célèbre groupe de métal sortait son Black Album, porté notamment par le tube Nothing Else Matters. Aujourd'hui, pour l'occasion, la bande californienne livre The Metallica Blacklist, un double album anniversaire réunissant 53 artistes qui revisitent les 12 morceaux datés de 1991 au casting. Miley Cyrus, Elton John, Mac DeMarco, mais aussi les Frenchies, Isia et Sébastien. Runs up.
C'est le premier grand rendez-vous national de la rentrée littéraire.
Et enfin, tout le monde en place. Le salon Le Livre sur la Place déploie aujourd'hui sa 43e édition à Nancy. On y attend pas moins de 500 auteurs, parmi lesquels Christine Angot, Delphine de Vigan, David Diop ou Sorge Chalandon. On pourra aussi assister à une lecture des feuillets retrouvés de Proust par Guillaume Gallienne dimanche, ou se prêter au jeu de l'incontournable dicté pour les nuls. Enfin, on pourra vous y croiser, chère Natacha, puisque Rien ne t'appartient vient de recevoir le prestigieux prix des libraires de Nancy Le Point qui vous sera remis aujourd'hui. Oh oui ! C'est mon invité dans Boomerang ce matin pour Rien ne t'appartient, Natacha Apana, ce livre dans lequel votre héroïne retrouve la mémoire. Pourquoi n'a-t-on parfois pas d'autre choix que d'oublier ?
Parce qu'on veut survivre, parce que toujours on veut tenter de rester ici. Parce qu'ici est important, avoir été ici, vous connaissez ce poème de Rilke, avoir été ici même une fois, même en étant éphémère. Et cette femme-là, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'on lui a fait, elle veut essayer de rester. Et pour rester, il faut qu'elle oublie.
Le fonctionnement de la mémoire, quel sujet est-ce que c'est pour vous ? Parce que c'est une thématique par laquelle vous avez commencé à travailler très tôt. Vous avez commencé à aborder cette thématique dès votre premier roman, Les Rochers de Poudre d'Or. Quel sujet est-ce que c'est ?
Il me semble que la petite fille que j'étais, la petite fille qui essayait de comprendre pourquoi elle vivait dans une grande maison avec des grands-parents qui étaient analphabètes, mais qui étaient terriblement aimants et qui lui parlaient d'une vie dans les champs de canne, d'une vie qui lui semblait terriblement ancienne, barbare, mais cette vie-là, elle était là, puisque ces gens-là vivaient avec elle. Et ensuite, de l'autre côté, il y avait ses parents, des gens qui allaient travailler en automobile, qui s'habillaient bien, qui lui donnaient des livres à lire. Et c'est pour réconcilier tout ça, parce que les deux mémoires-là, elles viennent de la même source, elles viennent du même puits, si vous voulez. Et moi, j'étais au milieu. C'était pas un choix, hein, mais je voulais comprendre comment se faisait ce lien-là.
Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, cette grand-mère, que vous évoquiez en creux dans Petit éloge des fantômes? Quelle mémoire, quelles histoires, quels récits, précisément?
C'est plein de choses. Et surtout, ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est l'amour qu'elle me portait. C'est vrai. Quand on vous aime, malgré qui on est, c'est pas mal. Mais surtout, elle me parlait des choses avec une sorte de constante, incroyable. Elle me parlait de la mort, j'avais 5-6 ans, elle me parlait de... Elle a eu 13 enfants, dont 5 qui sont morts. Elle me parlait de ses enfants morts, normalement. Ensuite, elle me parlait des joies, elle me parlait de son mariage, elle me parlait de la vie dans ce qu'elle appelait le camp.
C'est fou.
Oui, alors c'était pas un camp. Mais je me dis, donc, dans sa mémoire, il y a autre chose. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas connu, mais qui s'infuse dans la terre, qui s'infuse dans l'air. Elle a toujours parlé du camp. Et quand nous marchions, elle me déposait à l'école, elle me montrait, elle me disait « ne va jamais là-bas, là-bas c'est le camp ».
Et transmettre cette mémoire, Natacha, à la faire vivre, transmettre ces histoires, ça a été un enjeu pour vous, en tant que romancière ?
Je ne dirais pas que c'est un enjeu, je dirais que c'est une nécessité. Mais je ne me lance jamais, je ne commence jamais en me disant que je vais transmettre quelque chose. Jamais.
Vous commencez comment alors? En vous disant que vous allez raconter une histoire, tout simplement?
Non, je me dis, mais cette chose qui m'obsède, cette question que je me pose, cette interrogation que j'ai, que ce soit sur le corps des femmes, que ce soit sur la résilience, comment je vais y répondre? Et je me dis toujours que l'important, tout au bout, c'est la sincérité de ce que je vais écrire, c'est l'honnêteté de ce que je vais raconter, et c'est de ne jamais être indécente.
Les réflexions sur les identités dans vos livres, je dois le dire, sont absolument passionnantes. Identité forcément, nécessairement plurielle. Il vous est arrivé d'avoir le sentiment qu'on vous demandait de choisir, vous, entre
non.
deux?
Non, mais on me demande souvent de me justifier. De me justifier de ma langue d'écriture, de me justifier pourquoi je suis comme je suis noire, mais pas trop noire quand même. Je suis un peu marron, mais pas. Je suis exotisante, mais pas ethnicisante. C'est cette justification là qui m'agace un peu.
C'est ironique parce qu'en plus la littérature est le lieu justement où on embrasse.
Mais bien
tout.
Sûr. Bien sûr. Et puis c'est de se justifier de parler des choses dont je parle. Souvent mes livres se passent ici, ne traitent pas forcément de la couleur, traitent d'un enfermement qui n'est pas forcément lié à la géographie, mais qui est lié au cœur et qui est lié aux paroles des parents. Donc, mais pourquoi tu parles de ça? Ne devrais-tu pas parler de ton île peut-être seulement?
Ouais.
Et ça m'agace. Et de livre en livre, si vous voulez, je ne pense pas à cela.
Mais c'est passionnant parce que votre approche de la géographie des lieux est assez intéressante. Je pense à l'île Maurice où vous êtes né, que vous avez décrit comme un paradis trompeur, comme une illusion. Que fait la romancière des illusions?
Ah, heureusement qu'il y a des illusions. Franchement, heureusement. Je ne travaille qu'avec ça. Parce que d'abord, les idées que l'on a, ces vapeurs de personnages, ces choses-là qui nous viennent, ce ne sont que des illusions.
Ça veut dire qu'on en crée des nouvelles?
Oui, et ces illusions-là, parfois, deviennent ces marionnettes-là, vous savez, ces choses qu'on écrit sur le papier. Et on se dit, tiens, peut-être que ces illusions-là étaient des rêves, et peut-être que ces rêves-là viennent d'une mémoire que je ne soupçonnais pas.
Oh. On va reparler de tout ça, évidemment, d'illusions, de création, de récits. juste après la voix sublime de Nina Simone, dans cette si belle chanson sur l'absence « If I Knew » en 1963. Vous êtes sur France Inter avec Natacha Appana. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
If you knew how I missed you, you would not stay.
Elle a cette discrétion, vous savez, cette délicatesse, cette précision assez fascinante qui vous donne envie de l'écouter. Le regard mélancolique, le sourire presque enfantin, avec sa bague illusion qui est verte d'eau comme ça quand on la regarde. Mais Natacha vous dirait qu'elle prend la couleur de sa peau. Natacha Appana, invitée de Boomerang pour parler de mots, de silence, d'enfance, puisque c'est bien son enfance, hein, une enfance d'abord quasi paradisiaque que revit votre narratrice dans Rien ne t'appartient. Quelle enfance est-ce que vous avez eue, vous ?
Très belle.
C'est rare qu'on réponde ça.
Très belle, extrêmement choyée. Et puis j'étais une enfant très casse-cou, sportive.
Oui.
Si vous voyez mes genoux, mais c'est un désastre.
Quelles sensations vous reviennent de cette enfance ?
De sauter, de tomber, de grimper, voilà. J'ai une vraie liberté dans mon corps et dans la manière dont je me tiens. Et ensuite, c'est une enfance, c'est drôle, c'est une enfance à rester dans un coin et à écouter.
C'est la question que j'allais vous poser du monde dans lequel vous viviez à l'époque, des scènes et des discussions auxquelles vous assistiez. Qu'est-ce que vous aviez le sentiment de comprendre, Natacha Appana?
Pas grand-chose, je suppose, au début, mais avec la sensation d'être à ma place. D'être exactement là où je devrais être.
Parce que vous dites que l'enfance, c'est justement l'âge où l'on voit tout, où l'on entend tout, mais où on ne comprend rien.
Non, c'est exactement ça. Et j'ai eu la J'ai eu la sagesse, je ne sais pas, peut-être que j'étais une enfant assez sage. Quand on me disait de rester dans un coin, je restais dans le coin. Je ne bougeais pas et je ne faisais qu'écouter. Et vous savez, quand vous restez dans un coin, les gens finissent par vous oublier.
Dans quelle mesure rester dans son coin, rester dans un coin, c'est ça, être écrivain?
Alors je dirais de manière physique. Alors parce que quand j'écris, il faut que je reste. Il ne faut pas que je parte. Même si les mots ne viennent pas, même si c'est agaçant. Quand je travaille, je vois ce clic, clic, clic de mon curseur là, et qu'aucun mot ne vient. Je me dis, il ne faut pas que je bouge. Mais en revanche, un écrivain ne doit pas rester dans son coin, dans ce qu'il a à dire.
Il est capable de, ou il ou elle, sont capables de mobiliser ce qui a été emmagasiné, souvent à son insu, de cette enfance qu'il ne comprenait pas.
Oui. Parce que dans l'enfance se joue tant de choses et se joue également ce que les adultes nous ont dit et que nous ne comprenions pas et que nous arrivons aujourd'hui à relire à la lumière de ce qui nous sommes.
À quel prix ?
À quel prix ? Mais après, vous savez...
Au risque que ça fasse mal.
Au risque que ça fasse mal à nous et à ceux qui nous avaient dit ce qu'ils nous avaient dit.
Et à ceux qui lisent.
Et à ceux qui lisent, tout à fait.
En fait, on en revient toujours au corps qui éprouve, qui endure, qui reçoit, qui catalyse, au corps qui se souvient aussi, parfois même par la danse. C'est ce qui apparaît dans le roman à travers les gestes de cette danse sacrée qu'on appelle le Bharatanatyam. Quelle danse est-ce que c'est ?
C'est une danse classique, c'est une danse extrêmement difficile parce que les danseuses passent des années à ne parfaire que les premières minutes de cette danse-là, les adavu, comme on les appelle. Et ensuite, c'est une danse de l'amour. C'est drôle comment c'est une danse de la discipline du corps, comment enfermer le corps dans une position où les genoux sont pliés, où les bras sont pliés, mais pour ensuite... dire l'amour, l'amour sans frontières, l'amour aux autres, l'amour parfois même, vous savez, c'est l'amour d'une maîtresse, c'est l'amour caché.
Est-ce que vous écrivez physiquement, ça m'évoque une résistance. À partir de quel moment la danse se transforme-t-elle en un acte de résistance, Natacha Appana?
Parce que la danse, ça revient à ce que nous disions au départ, c'est que nous dansons comme si notre corps nous appartenait. Nous dansons comme si notre enveloppe corporelle n'était qu'à nous et que nous en faisons ce que nous voulons. Et donc cette danse-là, elle peut être insolente parfois aux yeux des autres. Elle peut être terriblement taboue, terriblement agaçante. Et donc si nous arrivons à maîtriser notre corps pour danser, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut maîtriser d'autre ?
Et l'écriture, ça résiste tout autant ?
Oh là là. Si vous saviez, plus je vieillis et plus ça me résiste. Mais je crois que ça me résiste parce que je n'ai pas peur. Et il ne faut pas avoir peur.
Pour terminer cette émission, j'aimerais que vous nous lisiez un texte que vous nous avez écrit. Rien que pour nous, vous m'en voyez très touché.
La première chose que tu m'as dite quand tu m'as vue, avant bonjour, avant comment vas-tu, c'est « Mais pourquoi tu écris des choses pareilles ?» Tu as lancé les bras en l'air, jeté la tête en arrière comme si j'étais une enfant devant laquelle tu en avais assez de te répéter et tu as ajouté le ton presque suppliant, le sourire un tantinet désabusé. Un jour, j'aimerais que tu écrives quelque chose qui me fasse rire, qui soit gai. Ça m'a tout de suite fait penser aux premières paroles d'une chanson de Mika dont le titre m'échappe. Elle me dit « Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. » Si je n'avais pas la langue dans ma poche quand je suis face à toi, j'aurais aimé t'expliquer que je cherche à écrire la vie comme elle est, qu'importe le rictus, la grimace, la sueur, l'odeur, le mot sale, le mot triste, le mot sexe, le mot mort. Si j'avais le sens de la répartie, si je savais répondre du tac au tac, si je pouvais t'égratigner un peu et ne pas m'en vouloir, je t'aurais rétorqué « Mais je n'écris pas pour toi ». Si je n'avais pas la langue dans ma poche quand je suis face à toi, je te dirais que si tu grattais un peu, si tu ne faisais pas que lire les mots comme les marionnettes qu'ils sont, comme d'autres se contentent de regarder les masques, les poker face, les resting bitch face, tu apercevrais la manière dont la lumière se glisse sous la porte fermée. Tu devinerais l'amour se déployer dans l'ombre, tu verrais enfin que le cœur est cette chose avec des plumes. Pourtant, j'entends bien que ce que tu me dis, c'est ça en réalité. Écris enfin un roman que tout le monde aime. Après tout ce temps, ça devrait être simple, non? Parce que face à toi, mes pensées rabougrissent comme des vieux petits pois. Je n'ai pas su te dire que j'aimerais d'abord que tu m'aimes, moi, pour ce que je suis. Après tout ce temps, ça devrait être simple, non?
Oh, Natacha Valla, pour qui écrivez-vous? En fin de compte.
Ah, pour un concentré de gens, pour plein, pour des gens que je connais, pour des gens que je ne connais pas, mais qui viennent me dire certaines choses, et à qui j'aimerais dire, mais gratter un peu, et vous verrez.
Merci d'être venu faire
Merci
un tour
à vous.
Dans cette émission. Je rappelle que Rien ne t'appartient vient de paraître aux éditions Gallimard, que c'est une grande et violente beauté. Et je précise aux auditeurs, encore une fois, que vous avez remporté le prix des libraires de Nancy, Le Point, que vous allez filer recevoir maintenant. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang pour cette semaine. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé et Jérôme Humbert. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
L'histoire d'un monde. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de douter pour une fois. Kito konayo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue, on se dira oui comme autrefois. Elle poucave les étoiles entre elles, on balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate, mokili ebongi eyeba. Bolingo yanga na yo, suka seliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, maman Aria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia.
9h40 sur France Inter, histoire d'amour formidable, Gaël Faye, et tout de suite les médias avec Sonia De Villers, l'Instant M.
Bon bah on se retrouve lundi, Augustin.
À lundi.
Allez, ciao.